Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Anne-Sophie, vous êtes l'auteur de Monet par lui-même. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter ce génie de la peinture ?
Bien sûr. Sous le nom d'Oscar Claude Monet, il a vécu son enfance au Havre. Durant ce lycée, il fut connu pour sa notoriété en peignant des caricatures, qu'il exposera ensuite dans un magasin de fournitures avec lequel Eugène Boudin, grand peintre français des paysages d'extérieur, travaillait à l'époque. Ce dernier convainquit Monet à peindre en plein air. Monet dira à son égard, par un seul exemple de cet artiste épris de son art et d'indépendance, ma destinée de peindre s'était ouverte.
Il me semble qu'un autre peintre connu l'a aussi épaulé, si je puisse dire, pour se lancer. Mais son nom m'échappe.
Oui, effectivement. En 1862, il rencontra le peintre paysagiste hollandais John Kidd. Monet dira même à son propos, complétant là l'enseignement que j'avais reçu de Boudin, il fut à partir de ce moment mon vrai maître et c'est à lui que je dois l'éducation définitive de mon œil. Il a repris ensuite ses études notamment à l'école des Beaux-Arts de Paris, puis intégra le prestigieux atelier d'un des professeurs, Charles Clerc, avant de se lier d'amitié avec Basile, Renoir et Sisley.
Merci, ce fut bref et intense. Et vous, Madame Lacombe, vous avez réalisé une exposition en l'honneur d'Olivier Debré. Pouvez-vous nous le présenter ?
Tout d'abord, Olivier Debré est un peintre impressionniste du XXe siècle. Tourangeau, il est né le 14 avril 1920 à Paris, où il passa son baccalauréat de philosophie avant de s'inscrire pour des études d'architecture à l'École des Beaux-Arts de Paris, ainsi que dans une licence d'histoire. Olivier Debré est avant tout le représentant majeur de l'abstraction lyrique.
Comme nous le savons, Olivier Debré était très attaché à la Touraine. Quelle est la raison de cet attachement, Elisabeth ?
Nous pouvons expliquer cet attachement à la Touraine grâce à son grand-père, qui fut pour lui une réelle source d'inspiration et qui l'encouragea à peindre, à dessiner et à sculpter. En effet, lors de ses vacances, Olivier Debré venait à Nazelles, une ville proche d'Amboise, où habitait son grand-père. C'est dans cet environnement qu'il va découvrir la Touraine et plus particulièrement la Loire, à laquelle il va se lier d'amour.
Merci Madame Lacombe pour cette explication. Monet était lui aussi subjugué par cette nature riche en surprises et s'intéressera non pas à la Loire, mais au beau fleuve qui traverse notre capitale.
En effet, Monet était folle amoureux de la nature, et particulièrement de la Seine. Il l'a peinte en tout lieu, à toute heure et en toute saison. Pour la petite anecdote, il a même été jusqu'à construire une barque pour observer de plus près les effets de la lumière. Il cherchait à travers cette nature très riche à transmettre ses émotions et ses sentiments.
Mais la vie de Claude Monet ne fut pas toute lisse, n'est-ce pas ?
Monet connut effectivement des périodes d'amère pauvreté. Il fut aidé par Basile. Tous deux peignaient en plein air, dans des environs de Paris et sur les côtes normandes, là où, selon eux, l'expérience des phénomènes d'optique de la lumière et de la couleur était les plus intenses. Cependant, en 1869, traduit un tournant pour Monet lorsqu'il peignit avec Renoir une série de tableaux à la Grenouillère, lieu de loisirs de Bougivard, adepte des Parisiens pour sa baignade, le canotage et un restaurant flottant. Les toiles travaillées avec les touches de couleurs rapides et vigoureuses correspondaient à l'animation turbulente du petit monde qui s'y pressait, marquant ainsi l'émergence du nouveau style artistique dominé par l'impression.
Anne-Sophie, c'est là qu'est né l'impressionnisme ?
Monet est bel et bien le chef de l'impressionnisme. Alors, si on veut donner une définition exacte de ce mouvement, ça serait. Ce mouvement pictural est caractérisé par une composition ouverte, une utilisation d'angles de vue inhabituels, une tendance à noter des expressions fugitives, sans oublier la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux. Maintenant, selon Monet, l'histoire de l'impressionnisme est indissociable à celle des salons de Paris. L'évolution sociale, économique et culturelle du XIXe siècle a eu pour conséquence que les œuvres d'art allaient être créées par des artistes indépendants et non plus au service de quelques princes et coopérations. La recherche des impressionnistes sur la lumière et les couleurs leur font découvrir de nouveaux procédés picturaux où la juxtaposition de taches de couleurs pures sur la toile se fondra en un mélange d'optiques uniquement visible à l'œil du spectateur. L'impressionnisme eut un grand succès dans le domaine de la peinture, bien sûr, mais aussi dans les arts visuels tels que la sculpture ou encore la photographie. Là, encore une fois, Monet exprimait ses sensations et ses expressions fugitives.
Et vous, Elisabeth, pouvez-vous nous parler de la manière dont travaillait Olivier Debré ?
Olivier Debré va s'orienter dans un premier temps vers l'abstraction à la gouache et à l'encre de Chine. Puis, il va adopter une technique picturale par plan de couleurs appliquée en couches épaisses au couteau. Sa manière de travailler était en effet très particulière. Il disposait ses toiles au sol, il pouvait ainsi étaler la matière avec un balai, faisait couler la peinture sur la toile pour travailler les couleurs et utilisait son couteau de peintre pour créer du relief sur ses toiles. Il peignait par terre, à l'aide de tout son corps, pour avoir l'impression d'être dans l'œuvre. Il s'est même peint marchant sur la toile pour être dans l'œuvre, dans le rideau de scène qu'il a réalisé à Shanghai en 1998 pour le Nouvel Opéra.
Quel type de toile utilisait-il ?
Olivier de Bré peignait ses toiles monumentales car cela permettait pour lui, aux visiteurs, d'avoir la sensation d'être dans le paysage. L'absence de cadre est un moyen pour de Bré d'optimiser les libertés de chacun et de pouvoir observer l'ensemble des techniques utilisées. Ces toiles monumentales étaient modulables et pliables pour ainsi pouvoir les transporter plus facilement. Ces toiles de plus en plus grandes et monochromatiques atteignaient 8 mètres de long en 1946, avec la toile nommée « La vérité et la justice poursuivant le crime » et vont jusqu'à atteindre 50 mètres carrés pour la toile de l'escalier de la mairie de Boulogne-Billancourt en 1988.
Monet utilisait également des œuvres monumentales pour mettre en immersion le visiteur. De plus, dans ses paysages, la lumière a toujours été le personnage principal et comme il voulait absolument saisir l'effet changeant, il adopta l'habitude de peindre le même objet, mais à différentes heures de la journée. Ainsi, pendant 2 ans, il peignit une série de meubles de foin, partant ensoleillés, gris, dans le brouillard ou même couvertes de neige. On y retrouve meubles de foin, effet de neige matin en 1890, meubles de foin, fin de l'été matin en 1891. Il fit une célèbre série destinée à la cathédrale de Rouen. Il changeait de canevas selon la lumière. La cathédrale de Rouen, le portail et le tour Saint-Romain en plein soleil de 1894 se trouvent au musée d'Orsay.
Le mardi 14 mai à New York, une œuvre de Claude Monet, intitulée L'Émeule et estimée à plus de 55 millions de dollars, a été vendue à 110,7 millions de dollars. Un record. Je reviens vers vous, Elisabeth. Comment qualifierez-vous le travail d'Olivier de Bré ?
Olivier de Bré qualifiait sa peinture d'abstraction fervente, car elle était la matérialisation de ses émotions. Il partait des émotions qu'il ressentait devant des phénomènes naturels, tels que les tempêtes, des typhons, des rivières et la Loire en particulier. Nous pouvons qualifier son art d'art abstrait, car c'est la peinture sous forme de traces. Olivier de Bré adopte aussi une palette de couleurs intense qui va devenir caractéristique de son style.
Par qui l'était-il influencé ?
De Bré a subi l'influence de Pablo Picasso, auquel il a rendu visite à plusieurs reprises, d'André Lhotskoï, qui lui a influencé dans son retour à la couleur, ainsi que de grands artistes impressionnistes abstraits américains comme Klein, Rothko ou Olitsky, qui fréquentaient souvent et qui lui ont permis d'adopter cette palette de couleurs dont on parlait précédemment, devenue caractéristique de son style.
D'après vous, mesdames, quels étaient les points communs de ces deux grands peintres ?
Monet et De Bré peignaient des toiles incurvées qui nous donnent l'impression d'être dans le paysage. Monet adoptait une technique fugitive alors que De Bré, lui, adoptait quelque chose de plus abstrait.
Leurs manières de peindre ont aussi quelques similarités. En effet, ils travaillaient tous les deux à l'extérieur, seulement De Bré peint par terre alors que Monet, lui, peint sur des châssis.
De plus, il ne faut pas oublier que ces deux peintres ont su sublimer les nymphéas. Claude a notamment consacré la fin de sa vie à aménager son jardin d'eau avec un étang de nymphéas. Ce sera le thème principal de ses dernières œuvres, telles que les nymphéas blancs en 1899 ou les nymphéas en 1914.
Oui, en effet, Olivier de Bré, à la manière des nymphéas de Claude Monet à l'orangerie des Tuileries, a réalisé 6 toiles de Loire qui forment ainsi une incroyable fresque presque ininterrompue de couleurs et de lumière. Ces 6 toiles résument les expérimentations plastiques de Bré. Créées entre 1990 et 1991, ces toiles invoquent davantage la question de la disparition de la figure au profit d'une expression plus plastique, mentale et sensorielle.
Petite question de fin. Selon vous, que signifie l'art dans la peinture ?
Dans cette conception de l'art pour l'art, la vérité du tableau est relative parce qu'elle dépend du sujet qui le peint et du spectateur qui le regarde. Tout est dans l'esprit que le peintre veut apporter à son œuvre, ce qu'il veut transmettre. Et comme de nombreuses personnes, les chefs-d'œuvre que je préfère sont sans hésiter. La gare Saint-Lazare de 1877 ou rue Saint-Denis, festivité du 30 juin 1878.
De Bré aimait s'immerger dans le paysage pour travailler. De Bré récréait à la surface de la toile les paysages observés. Comme pour les nymphéens de Monet, ils ont été pour lui une déclinaison des aspects changeants de son jardin. La Loire fut pour De Bré une manière d'éprouver la matière et les couleurs et d'exprimer de nouveaux procédés plastiques. Ces six toiles de Loire sont pour moi les œuvres qui représentent le mieux le travail de De Bré. Elles sont des représentations directes du fleuve, de sa fluidité et de sa liquidité. Pour De Bré, le plus important est de saisir les étendues infinies au milieu desquelles il peint, en donnant à ses toiles une envergure telle qu'il n'est plus question ici de format, mais bien d'espace. C'est pourquoi les toiles sont pour moi, sans aucun doute, les toiles les plus représentatives du travail exceptionnel qu'a réalisé De Bré durant sa vie entière.
Par conséquent, Monet a laissé une œuvre considérable derrière lui, autant par sa quantité, près de 2000 œuvres, que par sa recherche impressionniste. Il écrira d'ailleurs, un petit peu avant sa mort, « J'ai toujours eu l'honneur Honneur d'être... J'ai toujours eu horreur des théories. Je n'ai que le mérite d'avoir peint directement devant la nature en cherchant à rendre mes impressions devant les faits les plus fugitifs. Je reste désolée d'avoir été la cause de noms donnés à des groupes dont la plupart n'étaient rien d'impressionniste.
Notre émission s'achève. Anne-Sophie, Elisabeth, encore merci d'avoir accepté et de répondre à mes questions. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à l'art de la musique baroque.